www.libradio.org. La station debout.
Nous sommes le 1er novembre ici à l'Almacène. L'Almacène, c'est une salle qui se situe au cœur des grottes derrière la gare à Genève en compagnie de Marlène. Bonjour à toi.
Bonjour.
Bienvenue, merci de t'être déplacée jusqu'ici. Alors tu es secrétaire syndicale au SIT, le SIT, acronyme qui désigne l'appellation suivante, c'est le syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs.
Exactement.
Syndicat qui se situe à Genève, dont tu vas nous faire peut-être tu vas nous dire quelques mots, qui est par ailleurs organisé en secteurs et toi tu fais partie du secteur hôtellerie et restauration.
C'est ça, exactement.
Alors, si tu veux bien, alors nous allons parler de la pétition concernant les recherches d'emploi obligatoires, ces fameuses 14 recherches d'emploi obligatoires qui augmentent le contingent pour ce type de profession actuellement, mais dont on sait bien que ça va ensuite toucher tout le monde. C'est le but un peu du jeu, tu vas nous expliquer un petit peu les enjeux de ceci. Mais avant cela, peut-être voudrais-tu dire quelques mots du syndicat en soi.
Alors, le syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs, c'est un syndicat qui réunit, comme son nom l'indique, différents métiers. Que ce soit des métiers des secteurs publics ou des métiers des secteurs tertiaires. Donc on retrouve au sein du même syndicat des personnes qui travaillent pour l'État, pour la santé, dans la construction, dans l'économie domestique et dans les services. Ça a l'avantage en fait d'avoir vraiment une approche de solidarité entre travailleurs et travailleuses qui est pour nous vraiment un credo très important. C'est la valeur fondamentale qu'on défend. Dans les luttes collectives, c'est la solidarité entre les différents secteurs et les différents types d'emplois. On est aussi un secteur qui n'existe qu'à Genève, c'est un peu aussi notre spécificité. Pour nous, c'est aussi très important parce que ça nous permet d'avoir une indépendance politique, syndicale, mais aussi d'avoir moins d'intermédiaires en fait entre le terrain et puis tout l'appareil du syndicat. Pour nous, c'est une façon d'être la plus proche du terrain, la plus proche des luttes et d'avoir un message et des priorités qui correspondent à celles du terrain.
Concernant le financement du SIT, comment ça se passe? C'est toujours un petit peu la question qui est latente comme ça. Alors allons-y clairement.
Les syndicats en fait sont des associations qui vivent grâce aux cotisations de leurs membres. Donc en fait, c'est un fonctionnement associatif. Il n'existe pas de subvention publique des syndicats. D'ailleurs, on n'en souhaiterait pas pour cette idée d'indépendance. Dans certains secteurs, il y a des conventions collectives qui prévoient des contributions professionnelles et donc une partie de l'argent qui existe dans les conventions collectives pour les faire appliquer, pour revenir au syndicat dans le cadre de contrôle, par exemple.
D'accord. Y a-t-il alors tu l'as dit, c'est organisé en secteurs. Pourrais-tu nous dire à la louche quels sont-ils ces secteurs et y a-t-il des secteurs plus sensibles que d'autres ou est-ce que c'est tout le temps partout assez combatif? Ce qui serait compréhensible du point de vue d'un syndicat, je veux dire.
On a des secteurs, disons, dans lesquels il y a des luttes qui sont plus urgentes actuellement. C'est plutôt ça qui
ouais, c'est plus une question d'agenda.
Voilà, qui est à mon avis importante. On est un syndicat qui travaille beaucoup autour des métiers précarisés, des métiers où les luttes collectives aussi sont actives, ou pour lesquelles il est important de fournir un soutien pour qu'elles se réactivent. Donc, à ce titre, l'hôtellerie-restauration, c'est un secteur prioritaire. Les conditions de travail dans le secteur sont vraiment catastrophiques pour la plupart des gens. Les salaires sont beaucoup trop bas, c'est des salaires honteux. Il y a un cadre général dans l'organisation du travail, dans l'organisation du secteur qui fait que la plupart des droits minimaux des gens ne sont pas respectés. C'est aussi un secteur prioritaire parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui accumulent plusieurs types de précarité. Mmh. Donc type précarité de l'emploi, précarité du statut de séjour, des personnes immigrées, des femmes, etc. Donc c'est un secteur qui combine en fait, qui cristallise beaucoup de ce qui est de l'exploitation et de l'oppression dans notre société.
Et alors, quels sont-ils, disions-nous, ces différents secteurs au SIT? Pourrais-tu nous les résumer en quelques mots?
Alors, le SIT, en fait, il est organisé autour de trois équipes, si on veut. Donc, on a une équipe qui travaille autour des métiers de la construction, du jardinage et du nettoyage. On a une équipe qui travaille autour de tous les secteurs publics, parapublics et associatifs. Et on a une équipe qui travaille autour de l'hôtellerie-restauration, de l'économie domestique, donc ce qui veut dire des emplois qui sont faits chez les privés, du ménage, de l'entretien, de la garde d'enfants, de personnes âgées, de personnes malades, etc. Et puis les autres métiers du secteur privé, comme la vente, la coiffure, l'esthétique, les employés de commerce, etc.
D'accord.
On a aussi des autres choses qui sont importantes de notre syndicat, c'est tout ce qui tourne autour de la question du chômage. Donc on a une caisse de chômage et on a une caisse de chômage qui a à cœur de fournir une défense du droit au chômage. Donc on essaye avec les collègues du chômage de faire en sorte que les droits des chômeuses et des chômeuses soient respectés et voire améliorés. On a aussi une grosse priorité de notre syndicat, c'est tout ce qui est fait autour de la question des sans-papiers, du projet Papyrus. Et donc on met beaucoup d'énergie aussi à être très actif dans l'amélioration des problèmes qui sont posés aux personnes sans papiers à Genève. Et à ce titre, voilà, on a été très actif dans le projet Papyrus qui permet de régulariser un certain nombre de personnes suivant des critères objectifs.
Si tu es d'accord, encore 2-3 questions concernant le SIT, et puis ensuite on ira vraiment sur on fera le focus sur la question de la pétition autour de ces recherches d'emploi obligatoires. Qui sont vos alliés, qui sont vos adversaires?
Alors je dirais qu'on est un syndicat de lutte. À ce titre, nos adversaires sont le patronat et celles et ceux et les organisations qui défendent les intérêts du patronat. Nos alliés, disons que nous, en tout cas, on a à cœur d'être un syndicat indépendant politiquement. Donc ça fait partie de nos statuts que d'avoir une indépendance vis-à-vis des partis politiques. Par contre, certaines organisations, certaines associations, certains collectifs et certains partis politiques défendent des choses qui sont sur la même ligne que nous. On travaille en fait avec toute une multitude de partenaires dans ce sens-là.
D'accord. Également les intersyndicales, ça c'est quelque chose que vous mettez en place régulièrement ?
Oui, le SIT fait partie de la CGAS, qui est l'organisation fêtière des syndicats genevois. CGAS, ça signifie Communauté Genevoise d'Action Syndicale. Et c'est aussi une particularité, on va dire genevoise, c'est-à-dire qu'on a une organisation fêtière qui est très forte, qui propose des choses, qui propose un espace d'action intersyndicale pour que, il y ait des projets qui soient défendus ensemble, en commun. C'est important pour nous qu'il y ait une diversité de syndicats. Pour nous, ça fait partie de la démocratie syndicale, si on veut. Mais c'est aussi extrêmement important de travailler ensemble pour défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses.
Quels sont les outils, quels sont les leviers qui vous permettent d'agir et qui vous permettent d'aller vers le mieux? Est-ce la négociation? Est-ce la grève? Est-ce que est-ce que les CCT, les conventions de collectifs, sont un des outils qui vous permettent d'arriver à insuffler du mieux-être au sein des différents emplois que vous défendez et des travailleuses et des travailleurs que vous défendez?
Bien sûr que l'outil principal des travailleurs et travailleuses, c'est la grève. On est dans un pays, dans un contexte historique où la grève est quelque chose qui est difficile à mener. Alors, au pays de la paix du travail, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour nous, l'outil principal, disons que c'est la militance, que les travailleurs et les travailleuses s'organisent sur leur lieu de travail, se solidarisent avec l'appui d'un syndicat. Si nécessité il y a. Donc ça, c'est vraiment l'auto-organisation, enfin la militance, c'est vraiment ça qui est le plus important pour établir un rapport de force, pour arriver à aboutir à des résultats concrets.
Donc voilà, c'est le rapport de force à un moment donné qui s'installe. Oui. Et c'est ça qui peut déboucher sur quelque chose.
Oui. Évidemment, après, en ce qui concerne les conventions collectives, c'est quelque chose qui a une utilité. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de peser dans les négociations là où on est des interlocuteurs, de peser aussi dans l'opinion publique et dans le débat là où, en fait, étant donné qu'on est un petit syndicat régional, on n'a pas forcément accès à tous les espaces de négociation. Donc l'idée, c'est aussi de peser un petit peu dans le débat public divulguant, en diffusant nos analyses, en fait, de quelles sont les revendications nécessaires pour que les conditions de travail soient améliorées et à peu près convenables.
Mmh. Deux petites questions et on passe à l'actualité. Quelle est votre position vis-à-vis des médias? Est-ce que vous sentez qu'il y a de ce côté-là un relais qui se fait assez facilement? Enfin, il y a des confs de presse, les médias viennent, transmettent l'information, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Parce qu'on sait, des fois, on dit qu'il y a des masses médias qui sont un petit peu aux mains du patronat d'une certaine manière, qu'il y a de la collusion qui règne dans ces espaces-là. En même temps, il y a des employés qui souffrent et qui certainement vous sollicitent. Alors, j'imagine que ça doit être assez compliqué de porter un regard critique sur des médias et en même temps de défendre les employés qui sont au sein de ces entreprises. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de position officielle, de ligne comme ça, ou de nouveau, là, on est au cas par cas et c'est l'actualité, les situations qui vont déterminer les actions à mener?
Je pense que c'est plutôt au cas par cas. Nous, on communique régulièrement, on fait régulièrement des conférences de presse pour présenter nos positions. On a un relais qui est parfois inégal. C'est aussi le jeu médiatique. Après, quand il y a des choses que nous estimons qui ne sont pas satisfaisantes, par exemple, tout ce qui s'est passé autour des relais médiatiques de la grève féministe à laquelle on a aussi beaucoup contribué, en accord avec les personnes qui sont actives dans ces enjeux-là, on décide ou non de transmettre notre point de vue critique sur ce qui a été sur la façon dont les choses ont été médiatisées. Mais globalement, nous, c'est un outil qu'on utilise.
Vous avez pareil un organe de presse.
Tout à fait.
Un journal syndical.
Tout à fait. Et c'est extrêmement important d'avoir un journal syndical qui traduit ce que nous faisons sur le terrain. Il n'y a pas tout que nous essayons de rendre médiatique par ailleurs dans d'autres médias. Mais c'est important pour nous de diffuser notre propre information, notre propre contenu pour que ce que nous faisons au syndicat soit diffusé.
Oui, bah j'imagine qu'il y a des négociations qui sont favorisées par le fait qu'il y ait une sorte de silence, en tout cas de discrétion à un moment donné. Et puis, donc, à ce moment-là, il faut peut-être justement pas ou moins communiquer. Et également, là, ce que tu viens de dire, il y a des biais, et notamment de la désinformation à un moment donné, et on l'a constaté de manière extrêmement grave lors de la grande grève féministe, où là, il y avait vraiment des propos mensongers qui ont été tenus par des médias de masse.
Il y a eu des propos problématiques, mais il y a aussi des journalistes qui ont fait un très bon travail.
Donc, oui, oui.
Disons que c'est plutôt au cas par cas.
Et puis,
nous, en tout cas, on est... on va dire que... c'est un outil qu'on utilise et on a notre propre organe de diffusion d'information également. Je serai plutôt brève sur ce genre de
questions. Tout à fait. Dernière question concernant justement un petit peu cette essence qui vous mène à vous battre. Y a-t-il des formes justement d'emploi qui sont particulièrement justement exposées à l'exploitation? Je pense au temps partiel. Je pense effectivement aux différentes populations entre guillemets spécifiques. Tu parlais des personnes justement qui ont qui sont peut-être migrantes et qui ont des permis peut-être différents que soit la nationalité suisse ou des permis C qui est le plus tranquille et puis ou le permis B. Y a-t-il un vrai problème au sein du travail des femmes? Est-ce que là on constate encore des disparités sur lesquelles il faut revenir et y a-t-il encore de nombreux problèmes à régler de ce point de vue-là?
L'emploi, en règle générale, a une tendance très forte à se précariser dans tous les secteurs. On le voit aussi dans les services publics, où on a souvent l'image que quand on travaille dans le service public, on a une position, entre guillemets, privilégiée en tant que travailleur, en tant que travailleuse. Les coupes budgétaires, le type de management qui est pratiqué dans les institutions publiques mettent une grosse pression sur les travailleurs et les travailleuses des secteurs publics et parapublics. Dans les secteurs où cette forme de précarisation est, on va dire, la plus violente ou la plus qui déploie le plus de formes de précarité. Il y a certains secteurs, on va dire, qui sont probablement plus exposés. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en est vraiment un. C'est un secteur qui est réglé par une convention collective au niveau national, mais une convention collective que le SIT juge extrêmement mauvaise. Le salaire minimum de l'hôtellerie-restauration pour un temps plein, donc ça équivaut à 42 voire 45 heures par semaine, est à 3470 francs. Donc juste impossible de vivre à Genève avec un salaire pareil. C'est aussi un secteur où il y a une grande population immigrée qui travaille. Et ça, on sait que c'est un facteur de précarité parce que voilà, il y a plus d'abus patronaux dirigés contre les personnes qui ont les moins de façons de se défendre, si on veut. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés aussi par ce genre de précarité. Un des secteurs où la précarisation et l'exploitation est, à notre avis, un des plus violents, c'est le secteur de l'économie domestique. Le secteur de l'économie domestique, donc je le disais avant, c'est tous les métiers qui sont faits chez des privés. Donc nounou, homme ou femme à tout faire, femme de ménage, cuisinière à l'intérieur des grandes familles, etc., etc. Jardinier, jardinière, voilà, il y a toute une série de métiers qui concernent beaucoup de personnes à Genève, vraiment beaucoup de personnes. Et ces métiers-là ne sont même pas soumis à la loi sur le travail. Donc en fait, il y a une sorte de... Il y a des outils juridiques encore moins forts que dans les autres secteurs. Et c'est très, très compliqué, en fait, d'améliorer les conditions de travail de ces personnes-là. Souvent, 99% ce sont des femmes d'origine immigrée ou immigrée et qui, pour beaucoup, ont un statut de séjour très précaire, voire inexistant. Ce qui est compliqué, c'est que ça se passe à l'intérieur des maisons. Ça se passe à l'intérieur de la sphère privée, si on veut. Beaucoup des personnes qui travaillent à temps plein dans une maison y habitent aussi. C'est vraiment des endroits où les formes d'exploitation sont les plus agressives et les plus violentes. Les secteurs de la vente aussi, on voit que ça se précarise beaucoup avec les attaques des patrons sur les questions d'horaires d'ouverture des magasins, par exemple. Et là, encore une fois, ça concerne beaucoup de femmes, des femmes en grande majorité. Pour ce qui est des secteurs qui sont extrêmement touchés par la précarisation, on voit aussi dans tous les métiers de la construction. Les métiers de la construction, même si ils ont des conventions collectives plutôt meilleures que dans les autres secteurs et une organisation collective beaucoup plus forte qu'ailleurs, sont quand même touchés par des offensives patronales. Et dans la précarisation, on voit notamment la démultiplication de la sous-traitance et des temps partiels. Donc, de plus en plus, les grandes boîtes vont faire appel à des boîtes de plus en plus petites pour sous-traiter à la chaîne certaines activités. Donc on sait que, en principe, les personnes qui travaillent en bout de chaîne, c'est des personnes qui sont extrêmement vulnérables à l'exploitation. Et on a aussi un phénomène, une tendance qui augmente, c'est de faire appel à des personnes en contrat temporaire. Souvent, c'est des personnes qui arrivent à un certain âge et qui devraient pouvoir avoir des augmentations de salaire dues à leur ancienneté et à leur âge, et qui sont tout bonnement licenciés et réengagés par la même boîte par après, à travers des boîtes de placement, avec des salaires inférieurs.
Bon. Êtes-vous à la recherche toujours de nouveaux membres et comment peut-on devenir membre ?
Alors, le syndicat, sans la lutte des travailleurs et des travailleuses, c'est une coquille vide. Donc c'est extrêmement important. Si on se sent concerné par solidarité avec les luttes des travailleurs et des travailleuses, ou si nous-mêmes on est concerné par une question sur laquelle on a envie de s'engager en lien avec notre propre travail, c'est extrêmement important de se syndiquer, ça c'est sûr. Se syndiquer, ça consiste en principe à remplir un bulletin d'adhésion qu'on peut trouver sur Internet pour les différents syndicats. Donc le syndicat CIT a aussi un site Internet, c'est cit-syndicat.ch. On a toutes les informations qui s'y trouvent pour savoir comment se syndiquer. On peut remplir un formulaire en ligne. Pour ce qui est de notre syndicat, les cotisations, on est membre d'une association, membre d'un syndicat, donc en fait ça implique de payer des cotisations. Les cotisations sont adaptées en fait au salaire, donc elles sont progressives. Du moment où on est syndiqué, on est invité à faire partie de comités, à venir à des réunions, voir des congrès, des assemblées, des réunions, etc. Et c'est très important aussi de venir donner son avis, de venir proposer des choses et de venir contribuer à l'analyse de ce qui se passe pour ensemble élaborer des stratégies de lutte et de les incarner.
Ouais. Comment explique-t-on, parce que semble-t-il le taux de personnes syndiquées en Suisse est assez faible, alors comment est-ce qu'on l'explique et selon toi, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça régresse? Est-ce que c'est stable? Ou est-ce qu'on est quand même dans une forme de progression parce que les gens prennent conscience et comprennent de plus en plus qu'il va falloir se battre pour de vrai et puis que pour se battre pour de vrai, eh bien à un moment donné, il faut s'impliquer.
Comment on explique le... La chute du taux.
Question pas évidente. Mais toi, tu constates ça? Tu constates qu'on a quand même, selon toi, on a un taux faible de syndiqués, de personnes syndiquées en Suisse, particulièrement vis-à-vis des voisins?
Globalement, le syndicalisme, quasiment dans tous les secteurs, le taux de syndicalisation baisse.
Ah, il en baisse?
Ouais. Okay. Le taux de syndicalisation baisse, donc les gens ne se syndiquent plus autant qu'avant. Et en même temps, on a un regain des luttes de terrain. On a la grève féministe, on a la grève du climat. Donc en fait, y a une sorte de paradoxe, si on veut, autour du mot grève et autour de la militance. C'est que peut-être que certains lieux de militance plus classiques, plus historiques, sont sous-investis. Mais en même temps, les gens sont dans la rue. L'important, c'est de pouvoir faire en sorte que le syndicat, ce soit un lieu de lutte à l'image des enjeux des personnes qui ont envie de s'engager, tout en restant fidèle à ses buts premiers, donc ça veut dire la défense des travailleuses et des travailleurs et de leurs intérêts. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce qui va se passer pour la suite. Je pense que notre syndicat, en tout cas, est très actif sur les enjeux qui préoccupent la plupart des personnes qui militent actuellement. Et je pense que plein de militants et plein de militantes vont investir ce lieu et en faire quelque chose de combatif à leur image.
D'accord. Alors, est-ce à dire que toi, tu vois l'avenir du syndicalisme d'une manière assez plutôt positive, d'une certaine manière, et selon toi, faut-il le réinventer partiellement ou complètement, ou est-ce que, eh bien, parce que tu l'as dit toi-même, le mot grève est approprié par plein de personnes, de groupes de personnes dont on ne s'attendait peut-être pas qu'elle s'approprie particulièrement ce mot-là. Grève climatique, etc., etc. Alors voilà, faut-il d'une certaine manière réinventer le syndicalisme selon toi?
Le syndicalisme, c'est un outil au service des travailleuses et des travailleurs. Comme tout outil, il doit s'adapter au contexte. Je pense que on a une période dans le militantisme en général où le fait que le système économique et les intérêts de ceux et celles qui en bénéficient sont à nouveau pointés du doigt de façon ostentatoire. Donc en fait, on fait l'analyse autant quand on est féministe, quand on est écologiste travailleuse, syndicaliste. Que le problème, c'est le système économique, et donc on a, des adversaires en commun, des ennemis en commun. Pour moi, en fait, il n'y a pas de. Le syndicalisme correspond, en fait, oui, aux besoins et aux analyses actuelles.
Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, il est réinventé constamment.
Il faut qu'il le soit par les militants et les militantes, donc c'est pour ça que c'est important d'être syndiqué.
Alors on le rappelle, pour se syndiquer, eh bien, il n'est pas plus compliqué que de se rendre par exemple sur le site internet www.sit-syndicat.ch et là tout s'y trouve, le formulaire d'adhésion, les infos, etc.